C'est arrivé en 44. Vous êtes sur Radio VFM. On est ensemble jusqu'à 11h à Saint-Rémy-sur-Orne, à la salle des fêtes de Saint-Rémy-sur-Orne, qui nous accueille aujourd'hui avec des enfants d'une classe que nous présenterons tout à l'heure de Saint-Rémy et qui auront, s'ils le souhaitent, la parole dans cette émission. Premier témoin donc de cette matinée, c'est Christophe Prime. Vous êtes bien connu, Christophe, puisque vous vous occupez du mémorial de Caen, un mémorial où les visites sont très nombreuses là depuis plusieurs jours maintenant, voire même plusieurs semaines, et ça continue évidemment tout au long de ce week-end. Alors Christophe, au-delà de ce que nous allons raconter, dites-nous d'abord ce que vous vivez depuis plusieurs jours, depuis ces cérémonies, depuis le lancement de ces cérémonies du 80e. Est-ce que l'ambiance, le souvenir, la mémoire, c'est toujours aussi important 80 ans après ?
Oui, 80 ans après, on peut dire que ces commémorations, finalement, ont atteint, je dirais, un sommet inégalé en termes de succès, parce que ce soit, bien sûr, dans les musées, un petit peu partout sur la côte, et on en était les témoins par les médias, on a vraiment une grosse ferveur autour de toutes ces commémorations, beaucoup de festivités qui sont aussi liées à la présence, notamment des derniers vétérans qui sont venus de Grande-Bretagne, du Canada ou des États-Unis, et finalement, ils sont célébrés, en tout cas en grande pompe cette année.
Alors cette ferveur, elle est toujours étonnante quand même, parce que toute l'équipe, une bonne partie de l'équipe était sur les côtes, j'étais moi plutôt à l'intérieur, mais d'autres nous ont fait vivre les cérémonies à Oma et à Romanche, etc., et à Bayeux bien évidemment, puisque nous sommes installés sur le territoire du Bessin. Ce qui revient toujours, c'est l'attachement des Normands à ce rendez-vous et les dialogues, les rencontres nouvelles souvent qui se font aussi avec les étrangers qui viennent participer à ce rendez-vous, quoi.
Oui, c'est un moment d'une ferveur populaire, international, parce que ça dépasse bien sûr le cadre de la Normandie. Hein. Lors de ces festivités, on a des personnes qui sont venues d'un petit peu partout en France, mais aussi de l'étranger, hein, de Belgique, des Pays-Bas, mais aussi bien sûr des pays finalement qui hier étaient ceux des pays alliés, notamment les pays de tous ces vétérans.
Alors on sait, il y a eu quand même beaucoup de frustration pour assister à ces événements, parce que voilà, il y a 5 ans, c'était déjà un peu restreint au niveau du public. Là, évidemment, les circonstances internationales ont fait qu'il a fallu prendre des mesures de sécurité assez, assez exceptionnelles. Bon, ça n'a pas toujours été facile à vivre pour tout le monde, parce qu'il y avait une... Et c'est pour ça que les gens se sont un peu repliés sur les terres à un moment, d'ailleurs, cette année. Hein.
Oui, c'est vrai que là, on avait quand même des grands événements. Hein. Moi, j'étais sur la plage du Tabitch. C'est vrai qu'il m'a fallu plus d'une heure et demie pour rejoindre le musée où je devais faire justement une matinale avec RTL. Donc, c'est vrai que ça a dépassé, je pense même, les services finalement de l'État qui étaient chargés de la sécurité, de l'organisation. Parce que voilà, il y avait trop de monde.
Hein, oui, on n'avait pas forcément bien calibré cette ferveur populaire. Mais dans ce sens-là, c'est plutôt agréable quand
Tout
même.
Tout à fait.
Alors, on revient à l'histoire de Saint-Rémy. C'est quand même une histoire particulière ici. C'est pour ça qu'on a choisi également votre commune dans notre périple, donc, qu'on va mener jusqu'à la fin de l'été sur notre antenne. Saint-Rémy, c'est une histoire particulière parce qu'il y a aussi l'histoire des mines de Saint-Rémy. Mais avant de revenir sur tout cela, l'occupation allemande s'était vécue comment dans ce secteur ?
Alors l'occupation allemande, parce qu'ici on est finalement dans une zone rurale, et c'est souvent sur le plan historique un petit peu le parent pauvre. Hein. Quand on parle de l'occupation, on parle surtout des villes, parce que c'est là qu'il y avait une concentration au niveau notamment de la présence allemande, administration militaire notamment, et aussi les autorités de Vichy. Ici donc on vit sur un autre rythme. Tout simplement parce qu'il y a une présence qui peut paraître moindre de cette occupation, mais qui ne l'est pas toujours. Il faut bien savoir que cette occupation dans zone rurale se traduit souvent par une cohabitation forcée, puisque l'occupant va réquisitionner des chambres, hein, notamment c'est chez l'habitant, dans les grandes demeures, etc., ici à Saint-Rémy, sur Thurie, etc. Et donc il faut cohabiter avec eux. En même temps, c'est une occupation qui n'est pas toujours prégnante Moi, j'ai rencontré des témoins qui m'ont dit avoir rencontré leur premier Allemand en 1940, quand ils sont arrivés, et finalement, ils ne les ont quasiment revus qu'en 1944, parce qu'ils étaient dans des lieux très isolés. Mais il n'empêche que dans les campagnes, cette présence allemande va aussi, s'accompagner, bien sûr, de réquisitions, donc en termes d'approvisionnement, puisqu'il faut nourrir l'occupant. Donc, c'est la France qui est chargée de le faire, hein, sur ses propres deniers. Donc, forcément, dans le cadre d'un village, par l'intermédiaire des maires, etc., même si on ne voit pas l'occupant, finalement, on va lui donner ce qu'il veut. Et il faut lui le donner, hein, parce que, on a une armée en face, et donc, on ne peut pas déroger, justement, à ses demandes.
Et alors, on sent bien que le dialogue avec l'occupant, finalement, il avait lieu tous les jours. Hein. Il y avait le dialogue un peu de courtoisie, parce qu'il fallait bien quand même s'adapter à cette occupation pour l'habitant.
Oui, alors pendant très longtemps, quand on présentait cette occupation et l'attitude de la population, on présentait soit d'un côté, soit les collaborateurs et les résistants. En fait, aujourd'hui, les historiens parlent d'une masse grise la plus importante, c'est-à-dire donc toutes ces personnes finalement qui vont cohabiter, qui vont faire en sorte de vivre jusqu'à la fin de cet épisode d'occupation. Donc forcément, on peut un jour justement aider un résistant et de l'autre, et j'irai un autre jour, forcément donner aussi à l'occupant pour ne pas subir de représailles.
Oui, il ne faut pas se mettre à juger plusieurs années après. On ne sait pas ce qu'on aurait fait à l'époque et dans le contexte. Et c'est vrai que là, il y a eu un gros travail des historiens là-dessus pour remettre un peu de calme dans tout ça, dans les discussions familiales aussi des fois.
Tout à fait.
Alors, l'occupation donc à Saint-Rémy, vous nous l'avez résumé très, très rapidement. Et le jour du débarquement, comment ça se passe ici alors? Comment les habitants sont prévenus qu'il se passe quelque chose sur les plages normandes?
Alors, je pense que ça va se faire assez naturellement, puisque même si on se bat sur la côte, il y a le son déjà, hein, parce que ce sont des bombardements massifs, donc qui s'entendent à des dizaines de kilomètres. On va avoir l'aviation aussi, hein, qui va survoler le territoire, hein, bien à l'intérieur des terres. Et tout simplement parce qu'on le sait très bien aujourd'hui, c'est que les Alliés, bien sûr, se battent pour établir leur tête de pont, mais pour le faire aussi, ils vont bombarder l'intérieur, en particulier notamment les centres, les voies de communication. Donc ici, le plus proche, donc, ça sera le cas notamment de Thury-Harcourt. Après, bien sûr, on va dire que les habitants l'apprennent un petit peu très rapidement, parce qu'on va voir à la fois des soldats allemands, justement, qui vont réagir, qui vont se mettre en mouvement, etc. Et en même temps, il y a une sorte, les bruits en fait vont venir très très rapidement. On va savoir que les Alliés ont choisi la Normandie pour débarquer.
Alors c'est assez stratégique ici aussi. Il y a les ponts de l'Orne, hein, évidemment, pour couper l'arrivée d'Allemands ou leur retraite. Ça a été très rapidement la cible des Alliés.
Oui, alors la Suisse normande, c'est ce que j'appelle un petit peu un no man's land historique. C'est-à-dire que c'est une zone qui a été mal renseignée. On s'en est pas forcément beaucoup occupé. Faut pas oublier qu'en 1940, déjà le 18 juin 40, on s'est battu à Thury-Harcourt, contre l'avant-garde notamment de la 7e Panzer de Rommel, hein, pour le pont de l'Orne. Et en 44, finalement, on se retrouve dans un même schéma. C'est-à-dire que c'est un axe, l'axe qui va de Flers à Thury jusqu'à Caen. C'est un axe majeur que les Allemands connaissent bien, qu'ils vont emprunter, et beaucoup notamment d'unités blindées vont emprunter cet axe pour remonter sur Caen. Donc c'est un lieu éminemment stratégique, d'autant plus que la Suisse normande, par son couvert végétal, etc., et sa position par rapport aux lignes de front, notamment celle qui est au nord de Caen, finalement, ça va devenir une zone de repos, une zone de repli pour les troupes allemandes qui vont venir s'installer là, se mettre au repos avant de retourner au combat.
Et alors ici, c'est évidemment les mines qui ont sauvé aussi beaucoup de personnes. Vous pouvez nous raconter cette partie de l'histoire de Saint-Rémy très particulière?
Oui, alors la bataille de Normandie va s'accompagner de bombardements, en plus des combats. Les civils vont choisir de reprendre le chemin de l'exode, hein, comme ils l'avaient fait là aussi en mai-juin 40. Et donc forcément, donc on va se replier, une partie va se replier, mais aussi les habitants, quand ils peuvent le faire, ils le feront sur Caen, mais ils vont le faire ici sur Saint-Rémy, dès qu'il y a une mine, dès qu'il y a une protection, justement, un souterrain qui peut leur permettre de s'abriter des bombes, ils vont le faire. Donc ça va être la mine, ça va être après donc les tunnels ferroviaires aussi qui seront utilisés pour le même usage.
Et comment tout cela s'organise ? Est-ce que finalement, de Condé, de Thury, on se dit ben, on va plus se diriger vers ce secteur parce qu'il y a aussi plus de protection ou peut-être moins de combats ?
Alors les choses avaient été un petit peu organisées par les autorités de Vichy, par rapport là aussi à ce qui s'est passé en 1940, on a pris des mesures en sachant bien sûr qu'un débarquement aurait forcément lieu en France. On a donc échafaudé des lignes finalement de repli, notamment pour les civils, là où on pourrait aussi les accompagner, des points où on pourrait les nourrir, etc., etc. Donc ça s'est mis en place. Et puis après, c'est de l'impedimenta, hein, c'est-à-dire que plus les combats vont se rapprocher, par mesure de sauvegarde, on va prendre la route et on va tracer son chemin. Alors, quelquefois pour aller dans la ferme, notamment d'une personne que l'on connaît, d'un membre de famille qui est plus au sud. Mais après, il faut aller le plus loin possible. Hein. Et on retrouvera notamment des personnes qui iront quasiment jusque dans le centre de la France.
Combien de personnes sont victimes de ce débarquement, de ces bombardements sur le secteur ?
Ah là, j'aurais pas forcément le chiffre exact, mais à chaque fois qu'il y a un bombardement, ça va aller donc sur une commune en fonction de sa taille de plusieurs dizaines de victimes à plusieurs centaines. Donc ça dépend vraiment aussi du moment finalement où ça va avoir lieu, les frappes de nuit notamment étant bien sûr les plus meurtrières. Bah, on va dire que c'est avant tout Thury-Harcourt, Condé. Aussi, en Normandie,
qui ont quasiment totalement
été rasés, et Aunay-sur-Odon.
Et Aunay-sur-Odon, évidemment. Les personnes victimes donc de ces bombardements stratégiques, même s'il y a toute une histoire derrière tout cela, beaucoup de contestations sur le fait fallait raser toutes ces communes, elles ont encore témoigné, elles sont évidemment très peu nombreuses maintenant, mais qu'est-ce qu'elles disent finalement ? Elles retiennent la libération ou cette horreur de bombardement, disant pourquoi ils nous en ont envoyé plein comme ça, nos familles ont été tuées, on le voit à Aunay, on le voit à Villers, on le voit à Vire évidemment, on le voit à Saint-Lô, des communes martyrs. Comment ces gens-là témoignent maintenant et réalisent, et comment le témoignage s'est fait entre les parents, grands-parents et les enfants.
Disons que ça va changer, je pense, d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui vont faire acte d'une certaine forme de résilience, d'acceptation finalement, hein, puisqu'ils vont se dire, on l'a fait, c'est aussi pour retrouver, on nous l'a imposé ou on l'a subi pour retrouver la liberté. Ça dépend aussi de l'impact que ça peut avoir. Hein. Si on a des proches qui sont morts, notamment sous les bombes, forcément, le résultat ne sera pas le même. Donc il y a des gens qui vont accepter, d'autres qui vont peut-être même quelquefois en vouloir aux alliés de leur avoir imposé ça. Mais c'est malheureusement c'est la guerre. C'est exactement comme le débarquement. Le débarquement, quand on l'apprend, on est heureux, mais quand le bruit des bombes se rapproche, finalement, on aurait bien aimé que ça tombe ailleurs.
Tout à fait. Un mot sur la libération de Saint-Rémy, ça s'est fait quand exactement ?
Alors la libération de Saint-Rémy, ça se fait dans le même mouvement que la libération de toute une bonne partie de la Suisse normande, après la chute notamment du Mont-Pinçon, qui était une position forte allemande, hein, donc les troupes britanniques vont faire un mouvement donc d'ouest en est. Et donc on va tomber aux alentours du 13 août, notamment à Culpeperties où j'habite, donc c'est le 13 août, donc ça suit en fait. Hein. Après on passe l'Orne très rapidement puisque les Allemands finalement ne tiennent plus leur position.
Quand on dit très rapidement, 6 juin, 13 août,
ça paraît
impressionnant. Alors, ce qui est terrible maintenant, c'est que les jeunes générations, parce qu'on a eu d'autres témoignages dans d'autres émissions, comprennent mieux cette histoire d'avancée lente, parce que évidemment... on a ce qui se passe en Ukraine actuellement. Oui. Et on voit que pour un kilomètre, c'est des semaines, des mois, etc. Et encore, on peut reculer. Voilà. Donc, c'est mieux appréhendé aussi parce que il y a encore quelques années, les jeunes ne comprenaient pas forcément ce temps important entre le moment où les alliés débarquent et le moment où ils arrivent dans une commune qui est à 50 kilomètres, voire même 25 kilomètres des plages. Hein. Et donc là, il y a vraiment un témoignage différent depuis qu'on vit, hélas, les événements actuels. Ce secteur, donc, on l'a compris, il a permis quand même une avancée très, très importante des troupes. Hein. Une fois que ce secteur a été libéré, il y a eu quand même une ouverture.
Oui. Ben, disons que cette partie de la bataille de Normandie, finalement, on a les deux mâchoires. On a finalement la mâchoire nord, donc, qui va pousser sur falaise, hein, anglo-canadienne, la mâchoire américaine qui se trouve au sud, sur Argentan. Et finalement, les troupes britanniques, à l'ouest, font œuvre de piston, finalement. Ce sont eux qui vont pousser les forces allemandes vers ce qui va devenir la poche de falaise Chambois. Donc, c'est souvent une partie qu'on oublie finalement dans les livres d'histoire.
J'allais tout à fait vous le dire. C'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui, c'est qu'on a essayé d'aller trouver des endroits où les témoignages sont importants, historiquement même très importants, même déterminants pour la suite. Hein. Mais voilà, il y a des endroits dans notre Normandie qui ont été un peu oubliés sur cette histoire. Alors oubliés quand il ne s'est pas passé grand-chose, ok, mais là quand même, il y a des événements forts et qui ont permis des avancées fortes aussi des alliés. Et c'est bien de le rappeler grâce à vous aujourd'hui à ce micro. En tout cas, merci de votre témoignage. Je rappelle qu'on peut vous trouver au mémorial,
oui, tout à fait.
Bien évidemment, que le mémorial est le haut lieu donc de témoignages et qui font emmener toutes les générations au mémorial. Faut surtout pas hésiter. C'est un rendez-vous obligatoire quand on passe en Normandie et les gens qui sont sur le territoire, ça doit être aussi un rendez-vous obligatoire d'y aller en famille. Et on le précise de nouveau encore aujourd'hui. Et par rapport aux événements que nous vivons, il est important d'avoir encore énormément de témoignages et de faire comprendre certaines choses aux jeunes. Voilà. Merci à vous. On va marquer une pause et puis peut-être que des questions seront posées dans la salle. D'ici quelques minutes, c'est arrivé en 44. C'est jusqu'à 11h sur Radio VFM.